du lait par un public de lectrices et de lecteurs en Belgique aussi. Votre succès est un véritable raz-de-marée. Est-ce que vous êtes consciente de cet amour des lectrices et des lecteurs belges?
Oui, j'en suis surtout très très heureuse. Là, c'est vrai que ça faisait 5 ans que je n'avais pas publié de roman, donc je suis très contente de venir de nouveau ici à Bruxelles et d'accompagner un nouveau roman.
Vous tissez des liens plus particuliers, vous écrivez, vous avez un échange épistolaire avec eux, comme notre Amélie Nothomb nationale.
Alors, pas autant qu'elle, parce que ça, je dois dire que là-dessus, elle est complètement imbattable. J'ai effectivement pas mal de lecteurs qui m'écrivent, auxquels je m'efforce de répondre, parfois avec un peu de retard. Et puis surtout, j'aime beaucoup rencontrer les lecteurs en librairie, comme je vais le faire ce soir, demain, ici en Belgique. C'est toujours un plaisir.
Bien sûr, parce que vous bougez beaucoup. Votre dernier roman, Je suis Romane Monnier, publié chez Gallimard, Caracol en tête des meilleures ventes. Nous allons en reparler, mais saviez-vous que votre roman, No et moi, est au programme officiel de lecture dans le secondaire, c'est-à-dire c'est le collège, hein, pour vous en France. Donc Delphine de Vigan et Émile Zola, allez, c'est à peu près équivalent, de la fierté, un certain stress pour vous?
Tout à fait. Oui, c'est une grande joie de voir que ce roman continue effectivement d'être étudié aussi en France et un peu partout, à vrai dire, dans le monde. C'est un grand plaisir de voir que les jeunes aujourd'hui continuent d'aimer ce livre, d'y trouver pour beaucoup. C'est le début de la lecture. J'ai aujourd'hui, justement, comme dans les librairies, beaucoup de jeunes gens qui ont aujourd'hui 26, 27, 28 ans qui me disent: j'ai découvert la lecture grâce à Noé et moi, j'ai rencontré le
plaisir. Et qui vous suivent.
Et qui ensuite me suivent. Oui, c'est beaucoup de chance.
Alors, votre dernier roman, Je suis Romane Monnier, voici le pitch. Un homme emporte par hasard, après une soirée de beuverie, le portable d'une jeune fille qui s'appelle Romane, qui a 29 ans, qui lui confie même ses codes d'accès, un monde de traces, d'intimité, une vie qui va vraiment obséder Thomas. Cet engin maudit qui est vraiment une addiction, voilà. Aujourd'hui, je l'ai pris sur le plateau. On ne peut pas. Et vous l'avez dans votre poche? Vous l'avez tout le temps?
Non, je ne l'ai pas avec moi.
Non?
Mais je l'ai. Oui, bien sûr, comme tout le monde. Ça fait partie complètement de ma vie. Je constate à quel point je suis aujourd'hui dépendante de mon téléphone.
Mais
j'essaye justement d'avoir des moments maintenant, peut-être aussi en écrivant le livre, j'ai un peu pris conscience de ça, de m'autoriser des moments où je m'éloigne de lui.
Parce qu'on voit très bien dans le métro, par exemple, en Belgique comme à Paris, plus de smartphones dans les mains que de livres.
Ah bah oui, ça c'est.
Est-ce qu'on vous dit, oui, oh, j'ai plus le temps de te lire, de vous lire?
On constate, et je le constate aussi pour moi-même, que c'est vraiment, le téléphone fait vraiment concurrence à la lecture et qu'il faut faire un effort pour se dire, je pose mon téléphone pour ouvrir un livre.
Oui, c'est ça, il faut travailler sur soi.
Notre temps de concentration qui a évolué.
Alors, vous ressentez les humeurs et les ambiances de l'époque. Vos romans tournent évidemment autour de questions de société. Est-ce que vos romans, c'est un miroir que vous tendez pour raconter notre époque, la fiction pour mieux capter le réel?
Oui, j'aime bien cette idée. En tout cas, j'aime bien l'idée que mes romans sont très ancrés dans le monde qui est le nôtre, qu'en effet, ils lui tendent un miroir. Mais je le fais toujours à travers le romanesque et à travers l'intime. C'est-à-dire qu'au fond, je ne saurais pas écrire un essai. Je n'ai pas envie de le faire. Mon langage, c'est d'inventer des personnages, de les faire vivre, de les mettre aux prises avec un certain nombre d'interrogations, de questions, de phénomènes qui sont effectivement ceux de notre temps.
Et justement, à propos de personnages que vous faites vivre, pour beaucoup de téléspectateurs chez nous, ce sont d'abord les films qui ont été tirés de vos romans qu'ils connaissent, comme Noé et moi, réalisé par Zabou Breitman. Oui. Nous regardons un extrait.
Très bien, quel est votre sujet?
Je vais retracer l'itinéraire d'une jeune SDF, sa vie, enfin son histoire, comment elle se retrouve dans la rue. No comme en anglais?
No comme Nora. Toi?
Lou.
Comme un loup. Je dors pas, je vis pas dans la rue. Je dors même pas 10 fois dehors. En fait, je t'ai dit, je change souvent d'adresse, donc c'est provisoire, je suis pas une clocharde. En plus, si je vais pas travailler, je peux pas trouver un centre. Je sais pas ce que je vais faire à tout, je sais plus du tout.
Mais maintenant, je suis sûre de ce qu'il faut faire. J'ai beaucoup réfléchi, j'en suis sûre. On peut l'apprendre à la maison. Attends, laisse-moi finir. Et que tu dis tout le temps que le monde va mal. Et là, vous avez l'occasion de sauver une vie. Et ça compte une vie.
Merci.
Delphine de Vigan, est-ce que c'est difficile pour vous de confier votre bébé littéraire au cinéma, à l'industrie du cinéma?
Eh ben non, c'est pas difficile. À chaque fois que je l'ai fait, c'est que je pensais que c'était possible de le faire, et il m'arrive encore de refuser des adaptations sur certains de mes romans qui sont peut-être plus personnels et pour lesquels j'aurais du mal à imaginer que des acteurs incarnent les personnages. Je pense évidemment à Rien ne s'oppose à la nuit, qui est un texte pour lequel j'ai eu plusieurs propositions d'adaptation que j'ai refusées, ou Les Gratitudes, que je n'arrive pas non plus pour l'instant à imaginer au cinéma. Mm-hmm. Alors que mes ouvrages vraiment de fiction, c'est un pari, bien sûr, on confie son travail à quelqu'un d'autre, mais c'est aussi intéressant de voir comment un autre artiste va s'emparer de vos personnages.
Est-ce que quand on écrit, on pense cinéma ?
Non, moi pas du tout. En tout cas, il m'arrive de collaborer à des scénarios encore aujourd'hui, et c'est pour moi un tout autre travail, une toute autre écriture. Quand on écrit, on pense à la langue peut-être avant toute chose et pas à l'image.
Alors nous allons regarder une petite archive ici d'un grand artiste mythique belge, parce que vous êtes une grande lectrice, mais là on plonge un peu dans votre enfance. Regardez, c'est Lucky Luke. Maurice, puisque c'est évidemment un grand artiste belge, est-ce que lire de la BD vous a amené à la lecture?
Ah oui, moi complètement. J'ai vraiment, ma vie de lectrice a commencé par la BD. Il se trouve que j'avais hérité d'une collection de BD un peu qui était en transit chez moi, qui était destinée à un de mes cousins qui était trop jeune pour les lire. Et donc j'ai eu en dépôt une collection assez impressionnante de Lucky Luke, d'Astérix, de Gaston Lagaffe, de Philémon. Et j'ai adoré ces BD, je les ai lus, relus. Et en tout cas, ce plaisir de s'isoler, d'être dans sa chambre, de se créer son propre univers, il m'est vraiment venu avec la BD, et je pense que c'est ça que j'ai retrouvé ensuite dans les livres.
Mmh. Alors, c'est la séquence maintenant « Pourquoi vous l'aimez ?» Et donc, nous allons nous tourner vers ce bel écran et découvrir la grande Sophie,
la grande Sophie, oui,
que vous aimez beaucoup manifestement, ouais, puisque vous nous avez proposé, avec du courage, son titre qu'on a tous en tête. C'est de l'amitié ou de l'admiration professionnelle?
Un peu, c'est les deux. Au départ, c'était de l'admiration. Je l'ai rencontré un peu par hasard. Je devais proposer à un artiste de partager la scène avec moi pour un festival. J'ai proposé la grande Sophie. On s'est rencontrés à cette occasion. On a fait une lecture musicale qui n'aurait dû être jouée qu'une fois et qui a rencontré un tel succès qu'on l'a jouée 50 fois. Et c'est devenu une amitié.
Alors, je l'avais dit à l'entrée de l'émission, vous avez été couronnée du prix Renaudot. Voici un moment important dans la carrière d'une écrivaine, et nous avons ce petit extrait à vous montrer.
Le prix Renaudot 2015 a été attribué à Delphine de Vigan pour « D'après une histoire vraie ».
Alors, les prix littéraires pour vous, est-ce que c'est d'abord pour vendre, pour exister? Et est-ce que pour une femme écrivain, ce n'est pas le nec plus ultra, l'essentiel, puisque c'est toujours très difficile d'exister en tant qu'écrivaine, d'autrice?
Oui, oui, même si ça change sans doute un petit peu, heureusement, ces dernières années. C'est pas, les prix littéraires, c'est pas un objectif, en tout cas quand on écrit. Je connais pas d'écrivain qui pense en écrivant il faudrait que j'aie tel ou tel prix. En revanche, on peut pas nier que c'est un coup de projecteur formidable à un moment donné sur votre ouvrage. Ça a été le cas pour D'après une histoire vraie, ça a été le cas pour d'autres de mes romans. Je suis une romancière vraiment très gâtée par les prix de lecteur aussi. Et bien sûr, oui, c'est une reconnaissance, le prix Renaudot, c'est une reconnaissance un peu de vos pères, donc moi je suis pas du tout insensible à ça. C'est pas un objectif, mais à chaque fois que j'ai reçu un prix, j'en ai été évidemment très heureuse.
Mais donc vous vivez maintenant de votre plume. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire vivre de sa plume? Parce que vous avez publié vos quatre premiers romans en étant encore salarié. Qu'est-ce que ça veut dire vivre de sa plume?
On vit bien. Très grande. Moi j'ai la chance de non seulement d'en vivre, mais de bien en vivre, d'avoir une liberté de ne pas être obligée de publier régulièrement. Là, ça fait 5 ans que j'ai pas publié de romans. Je le disais à l'instant, c'est un grand luxe d'aller à son propre rythme. J'écrivais la nuit tant que je travaillais en entreprise, et maintenant j'ai la liberté d'écrire.
Et donc, d'ailleurs, l'écriture est dans votre vie tout le temps, et vous nous avez apporté votre surprise. C'est un carnet intime où vous jetez toutes vos idées. Montrez-nous.
C'est vraiment le carnet préparatoire de Je suis Romane Monnier. Et alors, il y a plein de petites notes. En même temps, là, j'avais fait imprimer des petites captures d'écran parce que j'avais travaillé sur cette idée de géolocalisation qui est dans nos téléphones, que je connaissais mal. C'est comme des petits pense-bêtes. Il y a la chronologie des personnages, quel âge ils ont à tel moment, Thomas, sa fille, Romane. Il y a aussi toute l'histoire du téléphone, à quel moment est apparu.
Oui, c'est précieux.
Sont apparus les premiers téléphones, etc.
Mais alors, Voilà du papier, mais on va repasser à l'écran parce que vous allez nous présenter votre coup de cœur à vous. Et c'est du cinéma.
Oui.
Dites-nous.
C'est un film qui s'appelle On vous croit, donc, que j'ai découvert assez récemment. J'ai la chance de voter, de faire partie des votants pour les Césars en France. Et donc, en regardant les films, je suis tombée sur ce film que j'ai trouvé absolument remarquable. Ça m'a bouleversée. L'actrice Myriam Akeju.
Que nous avions reçue, François Dubrigode l'a reçue.
Alors vraiment.
Si, une grande actrice.
Ah oui, une très très grande actrice. Et en l'occurrence, le film évidemment repose beaucoup sur elle, une espèce de huis clos judiciaire, quasiment en temps réel, sur l'histoire d'une femme qui se bat pour protéger ses enfants. C'est stupéfiant, c'est en plus avec vraiment un parti pris formel très fort. Ça a été un des grands chocs de cinéma de ces derniers mois.
Merci beaucoup. Alors maintenant, c'est l'heure des questions piquantes. Aïe. Vous répondez rapidement,
oui.
Très vite. Est-ce que c'est dangereux de vous connaître, car on risquerait tôt ou tard de se retrouver dans un de vos romans?
Oui, non?
Non. Êtes-vous à court d'idées pour votre prochain roman?
Non.
On ne vous demandera pas quelle est votre idée. Écrire à Paris, au café de Flore, hein, comme les grands anciens, dans le bruit, ou enfermé chez vous dans la mansarde, charentaise aux pieds et survêtement avec le chat sur les genoux.
Alors c'est plutôt charentaise et survêtement, mais pas dans une mansarde. J'ai la chance d'avoir un bel endroit où m'isoler à Paris, avec plutôt une belle vue et beaucoup de calme.
Mais merci beaucoup. Alors, trois recommandations que je...